Georges Écoude, le tatouage. Une bouffée d'air vicié que me fouette au visage l'entrebâillement d'une porte de cabaret devant laquelle je passais ce soir, flâneur, rôdeur peut-être, par la pluie de neige fondue, me remet en mémoire une aventure d'il y a quelques hivers dans un quartier déjà tombé sous les pioches des égarisseurs de pittoresques cités. Explorant le dédale savoureux des nommés coins du diable, nous étions tombés, un camarade et moi, au Bummel, le bal illustre de la région. Une salle surchauffée, électrisée de fluide humain, saturée d'exhalaisons rousses comme du brouillard en novembre. Des fresques criardes s'assortissaient au hurlement des cuivres de l'orchestrion. Des ouvriers endimanchés, nombre d'apprentis de métiers divers, vagues et surtout une nuée de ces êtres réfractaires et asymétriques que l'engeance qui les traque et les méprise appelle voyous, s'y trémoussaient deux par deux ou avec des danseuses de poussement veules et bonnes filles. Par moments, dans cette cuvée de jeunes chairs gueuses, le remous ressemblait à une ébullition. Malgré la touffeur au milieu du petit estaminet servant d'antichambre à la salle de danse, rougeoyait un grand poêle flamand, à l'ardeur duquel, machinalement, des fumeurs de pipe venaient exposer le bas de leur dos en remontant le bas de leur veste. Dans le tas de lurons qui s'affriolaient de houblons d'alcool, de vertige et de chair, l'un d'eux, mémorable, approuve ce récit, nous requit aussitôt par son galbe or, perd une étonnante souplesse de mouvement, une élégance inattendue. Une jolie tête brunette et souriante, aux yeux vieux noirs, légèrement bridés, sur un corps extrêmement bien fait. La dégaine délurée, il portait un complet mastic, qui par hasard a l'air d'avoir été taillé sur mesure et un chapeau boule, chocolat qu'il rejette en arrière. Et le débraillé, l'air casseur, qui choquerait chez les autres polissons de sa trempe, lui sied comme une grâce et un affinement de plus. Il fringue presque sans relâche, ivre de pétulance, se réjouissant de l'élasticité adolescente de ses jambes bien modelées aux muscles mobiles et chatouilleux, qu'on voit frissonner, comme de volupté, sous la culotte tendue, tandis qu'il hume les ambiances en frétillant de la narine et en claquant de la langue. Sa pantomime rajeunit et pimente les quadrilles, les lanciers, les ostendaises, toutes les chorégraphies de l'endroit. Tortillements, ronds de jarret, déhanchements, appels de pied et de main, rejets en arrière de la jambe comme pour décocher une roulade à chaque val de valse, et sa façon d'enlever sa danseuse en la faisant ballonner autour de lui dans un effarement de jupe, et encore au milieu d'un cavalier seul, ses révérences, croupe en l'air, comme en qui joue au salaud de mouton, tandis que, entre ses jambes, son visage lutin et falot sourit à sa partenaire. Toute cette frénésie, toutes ces scurrilités, bien des gestes plus osés encore, peuvent être très canailles, mais il nous semble à nous et à toute la galerie qui s'en régale et s'en pourlèche même les babines, souverainement plastique. Aussi de quel bravo, de quel rire on l'encourage, de quelle privauté on l'accable, en quels frais de séduction les jolies filles se mettent pour lui. Même ses repos sont composés avec un instinctif souci de la ligne et du modelage. Très suggestive, par exemple, sa pantomime. Mon camarade, le sculpteur, me poussa du coude pour m'en faire apprécier l'harmonieux enchaînement, quand, feignant une lassitude, il affecte de s'allonger sur le dos, la tête dans ses mains jointes, entre les coudes rapprochés, sur la banquette régnant le long du mur, mais pour se détendre, élastique comme un fauve replié, et pour empoigner d'un bond, avec une étreinte goulue, sa danseuse préférée, pour la happer victorieusement au passage, et accordèrent aussitôt ses pas aux siens dans les capricieuses spirales des danseurs. Ah, oh, c'est le bout en train, l'âme, la figure dominante et magnétique de ce bastringue, et à côté de ce vivant athlétique, à qui ses vêtements s'adaptent aussi bien que les muscles à ses os, combien feraient piteuse mine nos coconesses conformes et guindées. Aussi notre intérêt d'artiste épris de beaux modèles se concentre sur ce dandy populaire, ce Brummel du Bummel, comme le sculpteur le disait assez spirituellement plus tard, car ce soir-là, il admirait trop pour plaisanter. Il était emballé comme moi, ma parole. Et vrai, oh, c'est non sans éprouver une bizarre contrariété qu'après une dernière danse, nous le vîmes gagner la porte avec sa favorite, une grande noire aux yeux brillants, aux lèvres rouges souriantes et humides, comme une perpétuelle éclosion de roses, une gaillarde aux insolentes torsades, mal contenue par un peigne flamboyant de strass, un peu la mine capiteuse des cigarières de Séville. Un sentiment qu'il m'aurait été difficile d'exprimer en ce moment, tant il était complexe, subtil et en quelque sorte latent, mais qui me revint depuis, et que mon camarade me déclara plus tard avoir éprouvé aussi, m'était venu au sujet de ce galbeux polisson. Voici, tout le temps qu'il se prodigua à nos yeux en de si réjouissantes postures, nous n'attachâmes pas un instant à sa personne une idée bien déterminée de sexe. Il plaisait à toutes les femmes, il les recherchait même, semble-t-il. Et cependant, cela ne nous avait pas choqués de le savoir le point de mire des prunelles de presque tous les hommes. Bien plus, au cours de la soirée, nous l'avions vu danser à deux ou trois reprises avec l'un et l'autre garnement de son âge, et danser cette fois-là, tout aussi crânement, en montrant le même entrain, la même bonne grâce, le même plaisir. Par la suite, nous nous sommes rappelés cette grâce d'Androgyna, cette grâce neutre et ambiguë qui se dégageait du gaillard, et nous ne perdrons certes jamais le souvenir d'un prestige pervers. Pourquoi pervers? Ne conviendrait-il pas de dire innocent, absolument candide au contraire, qui allait d'ailleurs proclamer avec une sublime éloquence. J'ajouterai encore, afin d'assurer toute leur portée aux constatations réunies dans ce récit, que personne dans ce bastringue ne le connaissait. Comme nous, il n'y était probablement venu pour la première fois. On ignorait son nom, son métier, son logis. Ce monde assez farouche et méfiant d'ordinaire avait été conquis par sa verve, son exubérance, sa mine ravissante et son intarissable belle humeur. Et mon ami le sculpteur me raconta plus tard qu'il avait cherché, en observant ce personnage agréablement énigmatique, à deviner le métier qu'il pourrait exercer. Mais les habitudes du corps de ce drôle déroutaient toute conjecture. S'il avait appris un métier manuel, c'était sans doute en amateur, car son corps souple et cambré, son torse digne d'un mignon de Cellini, ses bras et ses jambes, dont Benvenuto eût doté son percé, ne trahissaient aucun de ces tics ou de ces déformations contractées à la suite des efforts et des actions musculaires monotones, enclumées et sempiternelles. Enfin, pour exhumer jusqu'à la plus intime des impressions que nous donna ce joli pauvre diable, au moment où il se retirait avec la belle noiraude, je caressais l'illusion qu'il n'aimait point cette créature-là, à l'exclusion de toutes les autres. Et l'avouerai-je, cette vague conviction contribua sans doute à me rendre son éclipse moins douloureuse. Aurais-je rêvé ce fait ? Où mon imagination ébranlée par ce qui se passa aussitôt après, leur est-elle ajoutée après coup aux événements qui précédèrent la péripétie dont il me reste à parler. Mais au moment où il passait devant nous, en emmenant sa compagne, il me gratifia d'un regard, d'une intelligence surhumaine, lisant, devinant jusqu'aux rêves trop volatiles pour être fixés même par la musique, le parfum ou la prière. Comme le couple sortait, au risque de rendre à ce bal faubourien la vulgarité et la crapule de tous les dimanches, du dehors, un individu poussa la porte et bouscula nos amoureux. C'était un gaillard d'une épaisse carrure, barbu, congestionné. Mais nous eûmes à peine le temps de le dévisager. Fou furieux, en proie, nous ne savions pour le moment à quel sentiment de courroux et de rage homicide, cet individu s'était jeté sur le jeune homme au complet mastic. Avant que moi, le sculpteur ou tous les autres, eussions pu l'empêcher, cette brute, étendue sur notre favori, le vautrait par terre, l'assommait de coups de poing, lui arrachait les vêtements du corps, le tout en lui hurlant des injures, ou roquait, ou râlait la passion la plus incendiaire. Ce fut l'affaire de quelques secondes. Revenus aussitôt de notre consternation, nous nous étions précipités sur le forcené, et malgré sa force de démon, quoiqu'il s'agrippât à sa victime en cédant de ses genoux, de ses griffes et même de ses crocs, nous parvînmes enfin à lui faire lâcher prise et à le pousser dans un coin où, maîtrisé, collé au mur, il ne cessa de pleurer et de baver à la fois. Je fus, avec le sculpteur et la jeune femme noire, de ceux qui ramassèrent l'adolescent, tout à l'heure si fringant et si radieux. L'acharnement de son agresseur avait été tel qu'il n'avait plus que sa culotte qui lui fut encore au corps. Son veston de coupe si conquérante couvrait le carreau de subtils haillons. La chemise arrachée, presque en lambeaux, mettait à nu le torse et les bras. Du sang marbrait ses joues et lui coulait du nez et des oreilles. L'œil gauche sortait à moitié de l'orbite. Des hommes étaient allés chercher de l'eau et les femmes approchaient leurs mouchoirs pour en oindre et en caresser son cher visage, quand les premiers, qui s'étaient portés à son aide, reculèrent en proie à une surprise qui se changea aussitôt en stupeur et dont ils sortirent en poussant un sourd murmure. Et les rires méprisants s'enflèrent en une huée d'anathèmes. Repoussé en arrière, je jouais des coudes, j'écartais les rangs de badauds malveillants qui m'obstruaient le passage et m'offusquaient la vue. Je ne compris pas tout d'abord le revirement qui se produisait contre ce séducteur. En le contemplant de plus près, je m'aperçus que la poitrine, le dos et les bras du jeune gars était complètement tatoué de curieux et grossiers emblèmes, de devises en langue et en argot divers, qui le tigraient de leur rébus et de leur hiéroglyphes. Il y avait pourtant encore là rien de chiffre incompréhensible. Peut-être avait-il été marin, soldat ou voleur. Or, c'est au moyen de semblables exercices graphiques que les pauvres ilotes trompent l'ennui de l'entrepont, de la caserne et du bagne. Tout au plus regrettai-je que l'ingrat eût profané et déshonoré par ce bariolage barbare la païenne perfection de sa chair d'éphèbe. Un nouveau mouvement dans l'assemblée m'arrache au cours de ma douloureuse contemplation. Le malheureux a deviné ce qui fait rire les uns, hurler les autres, reculer les plus nombreux. Parmi ces devises et ces emblèmes, gravés comme dans l'écorce des arbres et dans les murailles des geôles, ressortait en caractère plus grand la déclaration d'un amour sacrilège, accompagné des emblèmes d'une forfaiture sans appel aux yeux de la morale chrétienne. Daniel est à André. Alors, oubliant ses blessures, le sang qui coule, son œil prêt à s'éteindre, l'adolescent se rengorge, redresse la tête, bombe la poitrine comme pour mieux exposer ses stigmates, et désignant de la main le forcené qui sanglote toujours dans un coin. Mais l'André en question, c'est lui-même. Puis après, je l'aimais, car il fut longtemps très bon pour moi. Il me protégea et il fit mon éducation. Il s'est payé, nous sommes quittes. Et, rieur à travers ses larmes de sang, tandis que tous se taisent, subjugués par sa crânerie, Il retire de la gueule du poêle le tisonnier chauffé à blanc, et appliquant celui-ci sur la devise abjurée, il ne daigne ni voir fumer sa chair, ni l'entendre grésiller. L'horrible torture ne lui arrache pas une grimace, pas un gémissement. Il la prolonge, jouissant de son supplice, à mesure que s'efface fumante la monstrueuse déclaration, ses yeux stoïques et humides de beau martyr, surtout son œil sanglant et blessé, contemple si tendrement la jeune femme qui s'est détournée de lui, et ses yeux l'enveloppent d'une caresse tellement suave et poignante, qu'elle aussi, bravant la justice et le vertueux équilibre, se jette à son cou et dépose sur ses lèvres un long baiser de plénière solidarité.